Bon, bah alors écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis on commence par où vous voulez, mais voilà, le rituel, c'est les premiers disques achetés ou les premiers disques offerts. Ah, merde, ou... Allez-y, allez-y.
Portable, parce que sinon, ça sonnait tout le temps.
Mode hors ligne.
Ouais, c'est bon. Donc, les premiers disques, ça c'est très banal, hein, mais bon, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'ai acheté des disques de Renault, choses comme ça, Alphaville, Big in Japan, Bonnie Tyler, enfin, bon, le truc qui marchait à l'époque, le top 50.
Et.
Attendez, il y a
son ordinateur qui fait du bruit maintenant. Là, c'est le cas.
Qu'est-ce que c'était ?
Ordinateur.
Et alors le premier choc musical, le premier émoi, même si c'est banal. Hein,
non, bien sûr. Mais le premier vraiment choc musical, c'est vraiment plus tardif. Parce que bon, ensuite j'ai continué à écouter plein de choses que les gens écoutaient plus ou moins. J'allais à des concerts, à l'époque, j'aimais bien Tom Waits, les Wooden Tops. Les trucs que j'étais, voilà. Mais le premier choc, je dirais vraiment, vraiment choc, c'est quand j'étais à Lyon. Donc moi, j'ai passé mon adolescence à Lyon, mon enfance à Roanne, mais mon adolescence à Lyon. Et donc, une fille qui était avec nous en terminale, ou en première, je sais plus exactement, nous avait amené dans une boîte de nuit de Lyon, où ils avaient passé, je ne sais pas à l'époque, You Really Got Me, The Kings, Till the End of the Day, The Kings, All the End of the Night, The Kings, Wild Thing, The Trogs. Et c'était ces morceaux-là qui m'ont fait un assez bon choc. Et puis, I Can Explain the Who. Voilà, donc c'est là que j'ai eu mon premier choc. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Paris pour mes études après le bac, j'ai rencontré un mec qui était dans ma classe, qui s'appelait Frédéric Maillard, qui était plus connaisseur de musique que moi, et qui m'a fait découvrir ce qui était aussi le gros choc, les Sonics, les Stooges, tout ça. Donc c'est ça les deux chocs principaux, je dirais.
D'accord. Et par exemple, quand il y a eu c'est la boîte de nuit, vous aviez quel âge?
J'étais en, je pense, première, je pense, c'était au Sainte, je crois que ça s'appelait, je suis plus sûr. C'est une boîte de nuit de Lyon, comme ça. Donc voilà, j'étais en première, je pense. Ouais.
Et du coup, ça a balayé
Non, parce que j'étais un peu long à la... je me suis pas mis à collectionner tout de suite, si vous voulez. Non, ça m'a fait un énorme choc, mais à l'époque, je sais pas pourquoi, ça venait pas trop l'idée d'acheter les 47 tours originaux, tout ça. Donc j'avais acheté des compilations, ou comme, je sais pas, quand les Doors étaient sortis, le film avec Gold Kilmer, j'avais acheté les compilations des Doors, ou les Stones, et tout retrouvé dans les supermarchés, tout ça. Mais j'avais pas encore le réflexe. C'est venu après le rencontre avec Frédéric Maillard, donc juste après le bac. C'est lui, donc avec l'histoire des Sonics, des Stooges, etc. Donc au début, moi j'achetais des CD en fait, hein, parce que c'est passé à mode. Donc au début, j'achetais des vinyles, bien sûr. Puis quand c'est passé au CD, j'achetais des CD. Et puis à cause de lui, je suis allé dans des soirées. Donc c'est toujours pareil, ce Frédéric Maillard. Et j'étais très étonné parce que je disais, c'est bizarre, ça sonne pas du tout comme chez moi. C'est beaucoup plus plein, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus ample, c'est moins lisse, c'est moins stéréotypé en termes de son, ou c'est moins satin et touche. Et donc je ne comprenais pas bien, et donc c'est uniquement pour ça, c'est que je me suis rendu compte que c'était parce que les 47 tours sonnaient très différemment des CD, ce qui n'est pas le cas pour n'importe quel genre de musique. Hein. Par exemple, un fan de Étienne Dao, je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence entre un enregistrement vinyle des années 80 et un CD des années 90. Mais bon, en tout cas, pour ce genre de musique, c'est vrai que la différence était massive. Peut-être que ça s'est amélioré, moi je ne sais pas, parce que j'écoute peu de CD, mais en tout cas la différence était massive. Et donc c'est à partir seulement de ce moment-là que je me suis mis vraiment à acheter des disques, et on en achetait de plus en plus, donc à partir de 18 ans. Et ensuite avoir passé de la musique, un peu passer des disques comme je peux faire ce soir, de régulièrement. Ouais. Mais là j'ai fait un résumé très, très condensé, mais en gros c'est ça. Ouais.
Donc du coup vous passez des disques en soirée, on y reviendra tout à l'heure, mais, ouais. Mais vous avez compris ce qui s'était passé sur ces...
morceaux dont je parlais tout à l'heure.
Ouais.
Ah, j'avoue que je ne saurais pas trop analyser, hein. Ça m'a paru génial. J'ai pas dit que les balletés, j'ai trouvé que c'était très dansant, c'était très énergique. C'était un peu ce que j'imaginais avec le rock, un côté un peu arrogant, en même temps un peu stylé, une sorte d'énergie, etc. Mais non, je ne saurais pas dire, c'est pareil, c'est comme les... Je veux dire, de toute façon, c'est quand même assez simple, à ma connaissance, hein, bien sûr. Donc moi, par exemple, autour de moi, si je prends un cinéaste comme Pierre Léon, il ne s'intéresse pas tellement au rock. Lui, au début, il faisait la rubrique de musique classique dans Libération. Donc au contraire, il est très érudit en musique classique. Donc c'est un exemple à part, si vous voulez, parce que c'est vraiment des gens qui ne s'intéressent pas du tout au rock, ou qui vont aimer un petit peu style Velvet, à cause des balades. Éventuellement, je ne sais pas quoi, des trucs des Moldy Pitches, des petites balades, etc. Mais qui ne s'intéressent pas du tout au rock au sens de la violence, de l'énergie, de l'arrogance. Ils ne s'intéressent pas à ça. Donc, si je mets de côté ce genre de personnes, il me semble, hein, je peux me tromper, parce que moi j'ai une expérience peut-être qui est petite, courte ou relative, mais en tout cas, tous les gens que je connais qui s'intéressent un peu au rock, et qui peuvent aimer, je sais pas, au début plutôt AC/DC, ou qui peuvent aimer plutôt, je sais pas, la Cold Wave, ou qui peuvent aimer plutôt le gothique. Quand on leur fait écouter les Sonics, ça fait toujours un effet, j'ai remarqué, en reconnaissance, assez, assez extrême. Quoi. Les gens, ils sont conquis tout de suite, hein, je crois. Et donc, parce qu'il y a. Je veux dire, si on prend rien que les Sonics, parce qu'ensuite, si je fais à chaque fois sur, à la fois les Kinks, les Trogs, ça fait trop, les Stooges, ça, mais c'est vrai que les Sonics, il y a l'énergie qui vient du. Bon, je vais essayer d'être simple. Les Sonics, c'est un groupe américain, hein, donc peut-être vous connaissez, du Northwest, plus exactement de Tacoma. Et donc, ça fait partie de ces groupes qu'on associe au garage américain, mais qui ont la particularité, c'est qu'il y a plusieurs styles de garage, si vous voulez. Donc, pour aller vite, comme vous le savez, en gros, le rock commence aux États-Unis. En Angleterre, il y a des imitations, etc. Ensuite, en Angleterre, comme mouvement propre anglais, ils ont le skiffle, où il y a beaucoup, beaucoup de futurs stars de la musique anglaise qui commencent. Donc, une sorte de folk quasiment amateur, qu'on fait avec des bop bop doom, des trucs à rapper, là, voilà. Et ensuite, il y a le Mercy Beat, les Beatles, tout ça, je vais exprès vite. Hein. Mm-hmm. Ensuite, il y a la première vague, justement, qui n'est pas du Mercy Beat, mais qui est plus du rhythm and blues, comme les Rolling Stones, les Trogs. Justement, les Rolling Stones, les Yardbirds, des trucs comme ça. Puis ensuite, il y a des groupes qui sont un peu plus violents, entre guillemets, ou plus bizarres, comme les Creation, etc. Mais bon, en tout cas, pour te dire, c'est que juste après le Mercy Beat, la première vague de rhythm and blues anglais a eu un effet extrême aux États-Unis. Ils ont tout balayé. Et déjà, les Beatles ont tout balayé, mais je veux dire, pour être simple, si on prenait les charts américains, on regardait ça en 61, 62, 63, à partir du moment où les Beatles sont arrivés, ils ont mis au chômage 90% des artistes, en fait, qui étaient qu'ils ont mis au chômage immédiat, que les mecs sont tous tombés, le surf est tombé, le girls group est tombé, Phil Spector a résisté un peu, mais il est tombé, tout ça. Et avec un an de retard après le chômage, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adolescents dans les banlieues, dans les petites villes, dans les villes, voilà, qui faisaient de la musique influencé par les groupes anglais et qu'on a appelé le garage parce que c'était enregistré dans des conditions un peu amateurs, c'est souvent des groupes qui jouaient pas dans des vrais concerts, qui faisaient pas des vrais tournées et qui pressaient les disques sur des labels amateurs, voilà. Donc ça, en gros, c'est le garage. Mais il y a un garage qui est à part, c'est ce qu'on appelle le frat rock comme les Sonics, c'est-à-dire c'est un garage qui n'est pas influencé par la musique anglaise. Je veux dire, quand vous écoutez les Sonics, ils vont pas faire des reprises des Yardbirds, ils vont pas faire des reprises des Who, ils vont pas faire des reprises. Et ils viennent plus de ce qu'on appelle des groupes comme les Kingsmen, les Wailers qui étaient à côté de chez eux, qui étaient dans la tradition 50s, disons, Chuck Berry, etc., mais qui ont ajouté, à cause du saxo, à cause de l'orgue et le saxo et la guitare qui font les riffs en même temps, un côté à la fois festif, parce que c'est des frat rock, c'est pour fraternity, c'est-à-dire les fêtes dans les campus. Où les fraternités, voilà, se saoulaient et dansaient. Et il y a un côté un peu alcoolisé, il y a un côté fête, mais un tout petit peu détruit. Et le morceau phare, disons, c'est Louis, tout simplement, qui est un morceau au départ de Richard Berry dans les années 50, mais que les Wailers et les Kingsmen ont transformé en une sorte de hit monstrueux dans les années 60, qui était repris par, je crois, le morceau le plus repris au monde, et dont les paroles sont à moitié incompréhensibles. Et il y a plusieurs postes d'Américains qui ont même demandé au FBI des enquêtes, parce qu'ils demandaient si c'est influencé par la jeunesse, comme on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, la parole. Bon, tout ça, il n'y a pas. Et donc, les Sonics, c'est vrai qu'ils ont la particularité de recueillir cet héritage 100% américain, mais de le pousser à. Alors, c'est banal, un cran d'incandescence, de sauvagerie, ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est la manière dont ça sonne, les cris du chanteur Gary Rosley. Par exemple, on pourrait dire qu'il est un peu poussé par Little Richard, parce qu'il crie un petit peu comme Little Richard, mais c'est vrai que lui, c'est des cris qui font plus comme si c'était un truc de Lovecraft. Je ne sais pas si vous voyez un monstre la nuit, vous perdez la. Avant de devenir fou, vous poussez un cri. Et donc c'est plus tellement purement festif, il y a un côté un peu comme ça dans le garage, un peu maladif, ça flirte entre le côté la fête qui tourne mal et puis le cauchemar qui commence trop tôt. Et donc bon, là je commence à m'étendre, à être un peu logorique, mais donc tout ça pour dire que, en fait, je voulais juste dire au début que je suis pas bien capable d'analyser pourquoi ça m'a fait un tel choc, mais j'ai remarqué qu'en tout cas que les Sonics faisaient un choc similaire aux gens qui s'intéressent un tout petit peu au rock quand on leur faisait écouter. Et c'est vrai que c'est parmi les groupes qui m'a fait découvrir Frédéric Maillard là. Ensuite, j'en ai découvert plein d'autres, mais ça reste quand même ceux que je mets au sommet. Je veux dire, les Sonics, les Stooges, voilà, ou les morceaux dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie quand même des meilleurs morceaux. Même si maintenant aussi, je me suis mis un peu plus aux 50s. Mais c'est une autre histoire, tout ça.
Et les Sonics, il y aurait moyen de.
Ah, bien sûr, j'ai tous les 35 tours. Par contre, les 33 tours mono, c'est très rare. Hein, je les ai toujours pas. Moi, j'ai quand même plus de 47 tours que de 33 tours. Et c'est vraiment très dur à trouver. Hein. Les 33 tours. Donc je vais vous mettre, je sais pas, n'importe quel, un morceau des Sonics, c'est sûr. Avec plaisir. Faut que je retrouve parce que je classe un peu différemment selon les soirées, mais je vais vous trouver ça. Voilà, ça c'est les Sonics. Ça c'est les Sonics. C'est pas celui-là que je vais mettre. Non, c'est pas celui-là que je vais mettre, je vais être par là. c'est le Sonics. Ça, c'est... Bon, voilà, ça fait déjà assez. On peut... Je peux choisir déjà un truc là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Boss, Studio Slurp, Psycho. C'est une... Bon, je vais mettre Boss Hoss, qui est typiquement frat rock. Cinderella est déjà un peu plus garage. Moi j'écoute la musique un peu fort, mais si c'est trop fort, vous me le dites, hein, bien sûr.
Collectionneur?
Non, mais non. Qui non, il a acheté des rééditions en fait. Mais par contre, je vous dis, il m'a amené dans des soirées, et en allant dans les soirées, je trouvais qu'il y avait une grande différence entre le son que j'avais chez moi et le son que j'entendais, d'où je me suis mis au 47 tours.
Et à partir de là, comment ça s'est construit? Alors, ce qu'effectivement, vous dites, il y a dans le garage ou...
Ouais, donc au début, c'était ouais. Le garage. Ensuite, je suis devenu plus obsédé par les groupes anglais, tous les groupes mode, les Action, bon même des groupes connus, les Small Faces, tout ça, etc. Et donc voilà, ensuite les Crashion, tout ça, je suis venu plus obsédé par les groupes John Children, tous les groupes un peu mode, pop art. Ensuite, donc Garage, ensuite tout ce qui était un peu anglais, ensuite je suis allé un peu aussi vers l'hollandais, tous les groupes comme les Outsiders, Q65, les Motions, tout ça. Et ensuite, je suis allé vers la Soul, plus exactement la Northern Soul, je pourrais expliquer ce que c'est qu'un Northern Soul. Donc ça, ensuite j'ai dépensé beaucoup parce que c'est ce qui est assez cher quand même, la Northern Soul. Et puis depuis maintenant, 6 ans, je me mets un peu aux 50s et je me mets aussi parce que ça coûte rien. Et puis c'est, moi j'aime bien, c'est le glam aussi. Et aussi, bah oui, j'ai oublié le punk depuis une dizaine d'années aussi, le punk do it yourself, tout ce qui est style des Spad Bicycles, ou même TV Personalities, voilà, ou Swell Maps, ou en tout cas, voilà, ce genre de groupe dont j'ai connu moi les chansons par des compilations de Goff West et Chuck Warner dans Mess Aesthetics. Donc c'est des groupes anglais qui sont souvent assez peu guitare, qui sont plus orgue et qui sont. Qui font une sorte de punk un peu grêle, un peu estudiantin, qui est comme le skiffle du punk, où il y a un esprit un peu comme, je sais pas, l'humour de Carabin, tout ça, il y a un côté ça retrouve aussi un peu un côté Syd Barrett. Il y a un côté comme ça, amateur, drôle, je peux vous en mettre aussi, c'est super. Hein. C'est vraiment super, c'est beaucoup plus... Il n'y a pas le côté épais, un peu chiant des fois du punk. Il n'y a pas le côté routinier. Et il y a un côté un peu comme The Fall aussi, quand on écoute les meilleurs morceaux de The Fall. Il y a un côté un peu invective, un côté un peu parlé, un côté, une sorte d'énergie comme ça, un peu dru, et qui est moins stéréotypé que je sais pas, que moi, par exemple, les Sex Pistols, c'est un groupe que j'adore. Je trouve que c'est trop théâtral, mais enchanté, que c'est un peu forcé, tout ça. La méchanceté. Donc voilà, je peux vous mettre ça parce que c'est vraiment super. Les Death Squad Bicycles, par exemple, un morceau que j'adore, The Medium War Stadium. C'est souvent des morceaux un peu militants en plus. Donc là, The Medium War Stadium, c'est un morceau qui encourage et tout simplement les auditeurs à fonder un groupe. Parce que c'était, comme je vous le dis, c'est du do it yourself. Donc c'est des mecs qui pressaient eux-mêmes, qui faisaient souvent des pochettes photocopiées et qui étaient parmi, donc tu vois, les premiers groupes qui faisaient tout. Voilà, comme le tout premier aussi EP des Buzzcocks. Où il y a Bordam, 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 c'est super aussi. Ouais, c'est pareil, Scratch, je suis sûr que j'ai. Donc ça, voilà, ça c'est Despite Bicycles, un truc que j'adore. Vous allez voir, c'est... Donc ça, je collectionne beaucoup aussi. Je vais mettre moins fort, plus fort, vous me dites, hein, il va pas aller. C'est un peu avec tout ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez primitif. Non seulement c'est pas riche en termes musicaux, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas vraiment de batterie, mais même l'esprit, la production, le son, il y a un côté un peu à l'os. C'est pauvre et en même temps, ça a une sorte d'énergie plus drue. C'est vrai que je suis peu sensible, même si je peux aimer des choses de pop, comme la pop psych, pop psychédélique, c'est très sophistiqué. Mais en tout cas, dans ce qui est lié au rock, c'est-à-dire ce qui est censé être un peu énergique, ce qui est censé être un peu dansant, ce qui est censé vous faire un effet un peu d'adrénaline, je suis souvent porté vers des choses qu'on pourra qualifier un petit peu de primitives. D'ailleurs, c'était un peu, c'est banal hein, ce que je dis, parce que la chanson des Groupies, un groupe de New York, qui est un peu la chanson phare du garage, qui s'appelle Primitive, les paroles c'est primitive, des Groupies, donc Primitive, that's how I live, Primitive, I take what you give, and I know, and I live, Primitive. Donc c'est tout à même à l'époque déjà, ils étaient obsédés par le... Ben, je veux dire, c'est pas que les Cramps ou les groupes plus tardifs qui ont amené, même dans les années 60 déjà, les gens étaient un peu obsédés par l'idée de trouver un truc un peu à l'os. C'était pas forcément une démarche consciente, parce que la plupart des groupes garage, c'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens, qu'ils n'avaient pas bien joué, qu'ils n'avaient pas d'enregistrement, mais il y avait quand même la recherche d'un truc un peu à l'os, quoi, un peu nu.
Il y avait les Cro-Magnon aussi, je crois, qui étaient un peu plus difficiles à entendre.
Donc voilà. Donc voilà, ouais, essentiellement ce que je collectionne. Voilà. Donc les, parmi les trucs les plus récents, en tout cas, qui datent de seulement, je sais pas, à peu près 10 ans ou moins, c'est le glam, le rockabilly et le punk do it yourself. Et vous voyez que par rapport au morceau que je viens de mettre là, par rapport à un truc de The Fall, où il y a aussi le côté harangue et tout, ça c'est plus joyeux, je trouve, c'est plus dansant, c'est plus gamin. Marcus Smith c'est tout de suite un peu plus noir, c'est plus comme s'il était en train de faire un monologue un peu plus littéraire, un peu plus compliqué sur je sais pas quoi, les prolétaires. De certaine manière, les Fall est plus arty. J'aime beaucoup hein, les Fall. Mais là je trouve qu'il y a une démarche qui est plus, plus gamine, plus une sorte d'énergie, comme quand on écoute, je sais pas, un morceau des Beatles du début, il y a, y a une sorte de côté vraiment très joyeux. Très joyeux. Très. Il y a une sorte d'excitation naïve un peu que j'aime bien.
On a l'impression, parce qu'il y a plusieurs mouvements dans lesquels vous creusez, mais on a l'impression que pour chaque mouvement dans lequel vous creusez, ce qui vous intéresse, alors vous connaissez à fond, mais aussi ce qui vous intéresse, c'est comme une espèce, comme le, comme une espèce de cri, le cri primal, c'est-à-dire vraiment ce qui origine avant la production, avant le, comme si.
Un petit peu, j'ai gagné. C'est pareil, c'est vrai que bon, j'adore la Northern Soul, il peut avoir des morceaux très sophistiqués, il peut quand même dire la même chose, ou même Motown qui appelle la base de la Northern Soul, parce que la Northern Soul, en gros, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Northern Soul, ça ne s'appelle pas comme ça parce que ça s'est fait dans le nord des Amériques du tout. Hein. On appelle ça Northern Soul parce que dans les, à la fin des années 60, donc je vais aller vite, donc vous vous souvenez maintenant, il y a eu les Mods. Ensuite, les Mods, ils aimaient les musiques, les Small Faces, les Who, etc. Mais la musique en Angleterre des années 60, elle change tous les 6 mois de style. C'est ça qui est impressionnant. Ça change tous les 6 mois de style. Et quand je dis que ça change de style, c'est-à-dire qu'au niveau du hit parade, ça change complètement ce qui marche. Et donc, il y a eu donc, le Mercy Beat, ensuite le Rhythm and Blues, ensuite il y a le Pop Art, et ensuite il y a le grand passage au psyché. Et donc, il y a pas mal de Mods qui refusent le passage au psyché. En particulier ceux qui étaient dans le nord de l'Angleterre. Qui veulent pas que le rock devienne psyché et eux donc ils vont de manière un peu volontariste refuser toute l'évolution donc le psyché le blues boom des trucs que j'aime pas trop les trucs fusion style cream tout ça eux ils vont s'attacher à un certain style de soul ou de ska qui est style Motown pas style Stax pas style Atlantic. Alors ensuite c'est vrai que c'est infini, il faudrait se différencier pourquoi Motown a un style de soul qui est très différent de celui de Stax, celui d'Atlantic, celui de OK, etc. Et dans le nord de l'Angleterre en tout cas hein, comme dans des clubs hein, bon, il y a le Twisted Wheel à Manchester, Wigan à Casino, à Mecca, Blackford Mecca, enfin bon, Top of the World à Stafford, on pourrait faire toute une liste. Des prolétaires, en fait, hein, à partir de la fin des années 60, vont s'obséder sur un certain style de musique qui n'est plus du tout la musique qui se fait à l'époque, parce qu'on était passé pareil au funk. À partir de 76-68, ça, on passe au funk, tandis qu'eux, ils n'écoutent pas du tout funk. Ils n'aiment pas le côté un peu, justement, tribal, rythmique, affiné du funk. Ils sont restés fidèles à une sorte de soul, donc influencé par Motown. Donc, il y a le côté un peu mélodique de Motown, qui a le côté un peu glorieux, un peu fait pour le marché blanc, mais en plus obscur, où le principe, en gros, c'est de trouver des morceaux que personne ne connaît, personne n'a. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans les soirées, parce qu'ils savent qu'ils vont l'entendre que là, ils ne peuvent pas l'avoir ailleurs, parce qu'en plus, souvent, les gens, ils vont arracher ce qui est écrit là, ils vont mettre des faux noms, ils vont faire tout un système qu'on appelle les cover-up pour cacher leurs morceaux. Surtout qu'il y a un français, mais il faut que je regarde, c'est des histoires tellement marrantes. En fait, dans Northern Soul, le mec qui est la base de tout, c'est un français, Simon Soussan. Un français d'origine marocaine, une sorte de pied noir, quoi, qui est un escroc, qui est un bootlegger. Il y a plein d'histoires, parce qu'à chaque fois, il trouvait les morceaux, mais en même temps, il détruisait les morceaux parce qu'ils sortaient des bootlegs. Enfin, bon, il y a plein d'histoires. Il y a même dans des clubs de Northern Soul, comme Blackpool Mecca, il y avait un truc écrit, comme on pourrait dire chez Docteur Jean, il y avait une plaque écrite qu'à cause de cet horrible français Simon Soussan, plus aucun DJ donnera aucun nom des morceaux, parce qu'il s'était tout bootlegué. Et donc, quand tu bootlegs un morceau, c'est-à-dire tu sors un morceau de manière illégale. Mais donc n'importe qui peut l'acheter pour rien, et donc ça tue le fait que les gens ne peuvent l'entendre que dans un endroit, et donc ça tue le principe, ça tue le set du DJ, mais souvent le set du DJ a été fait grâce à des morceaux que trouvait Simon Soussan aux États-Unis. Donc c'est un drôle de truc, quoi. À la fois les gens avaient besoin de lui, puis il est niqué par derrière, et comme ils avaient quand même besoin de lui parce qu'il était là-bas, il trouvait les morceaux rares, il avait une oreille, et donc il y a un truc hyper étrange, c'est quand même un français qui se retrouve au centre de ça, c'est lui aussi qui était le producteur de Chalimar, le premier truc disco, enfin bon, il a une vie assez folle, Casablanca Records, c'était un escroc, pour moi un escroc extrême, Simon Soussan, il y a plein d'histoires, c'était vraiment un escroc pur. Mais un mec assez séduisant, assez marrant, et c'est quand même drôle qu'il y ait un français qui se retrouve à la base de ça. Donc voilà.
Casablanca Records, c'est lui.
Voilà, ouais, tout à fait. Simon Soussan. Et donc, voilà, j'en étais pour dire, oui, la Northern Soul, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, donc voilà, la Northern Soul n'était pas comme un genre où tout est primitif, même c'est les morceaux primitifs. Par exemple, Tainted Love, que je peux vous mettre, que vous connaissez peut-être par la reprise de Soft Cell, un morceau quand même de soul, mais qui est très sec, très à l'os, très rythmique, comme ça, très, très nu. D'ailleurs, c'est marrant parce que Tainted Love, ce morceau culte, qui est un peu le morceau emblème de la Northern Soul, en fait, c'est composé par Ed Cobb, qui était le producteur des Standards, qui est un mec qui faisait du garage, en fait. Et les Strandles, au départ, c'était juste un groupe de frat rock, un peu des Italiens, un peu ringards, avec des costumes. Et c'est lui qui les a dit habillez-vous comme les Stones, qui leur a mis un côté mauvais garçon, qui leur a fait changer complètement leur style musical et leur style vestimentaire. Et c'est lui qui est derrière Tainted Love. Mais bon, tout ça, je m'arrête là. Donc, juste pour dire que même en soul, qui est pourtant pas un genre qui s'associe trop avec un côté primitif, parce que souvent la soul, que j'aime bien, la soul mélodique, il y a de l'orchestration, les musiciens jouent super bien, ça vient un peu du jazz, etc. Mais même en soul, il y a un label qui m'obsède, hein, qui s'appelle Fortune Records, qui est un label de Détroit, donc la même ville que Motown. C'est avant Détroit, c'est un tout petit label qui était, c'est ça, c'était juste un magasin en fait. Et derrière le magasin, c'est un magasin qui était, d'ailleurs c'était un couple, comment dire, mixte, avec une noire peroxydée et un blanc. Et donc juste derrière le magasin, ils avaient un tout petit studio d'enregistrement avec un micro. Et elle composait un peu comme ça ses heures libres, et puis elle faisait passer des gens. Et ils ont eu quelques hits comme Nathaniel Meyer, Village of Love. Vous voyez Nathaniel Meyer qui est là. Voilà, Melvin Davis, voilà, ils ont eu un certain nombre de trucs phares. Et eux, ça ressemble vraiment à du garage, c'est-à-dire c'est la soul, hein, c'est vraiment la soul, c'est des noirs qui jouent, ils sont tous noirs, c'est du début des années 60, mais par contre il y a un côté ultra sauvage dans le son, complètement chaotique, et même le côté expressif des voix noires, souvent dans les vibratos, tout ça, qui savent faire des trucs, eux ça, c'est la même chose, mais en version très très déchirée. Donc je dirais que j'ai même trouvé dans la soul l'équivalent de ce que vous disiez là, dans ce label. Mais bon, depuis j'ai appris que c'était un label assez culte en fait, hein. C'est pas comme si je l'avais découvert, hein. Je veux dire, il va avoir un bouquin que font Norton, là, Billy Miller, Miriam Lina, depuis des années, ils enquêtent là-dessus. Et puis bon, voilà, c'est quand même assez culte en fait. Mais voilà, Nolan Strong aussi était un de leurs grands chanteurs maison. Donc je collectionne beaucoup les disques Fortune Records, ce qui ne coûte pas trop cher, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant au niveau du son. Parce qu'il y a le côté, je répète, noir, super bien, c'est d'une certaine manière hyper bien joué, mais en même temps c'est complètement chaotique comme dans Sauvage et on a l'impression que, je sais pas, il y a un truc vraiment très particulier au niveau du son.
Voilà. Voilà. On écoute un morceau.
Ouais, bien sûr, avec plaisir.
Mais. Ouais, je vais vous mettre, par exemple, A Place I Know, Nathaniel Meyer, vous allez voir. Ne croyez pas que c'est mon disque abîmé, hein. C'est que simplement, il y a des sortes de saturation dans la manière dont c'est enregistré. Et parce qu'il y avait juste un micro, en fait. Et les gens se déplaçaient en jouant pour faire des effets de, justement, de montée de tel truc et tout. Mais c'est ce que je connais un peu plus sauvage dans le style soul, moi.
Et c'est Nathaniel bon. Meyer, par exemple, ce qu'il a fait après ou ce qu'il continue ensuite à faire, vous le suivez ou vous...
Non, j'aime pas trop.
Ah, vous avez pas.
J'avoue que je trouve un peu fascinant les trucs qu'il a fait, Boogie, là, dans les années 80, mais le pauvre, à cause de la drogue, il n'avait plus de voix. Alors vous allez voir, il a une voix hyper expressive, il avait une voix maintenant complètement rauque, complètement cassée. Et puis ensuite, ce qu'il a fait maintenant pour Norton, justement, c'est du sort de revival. Je veux dire, c'est pas mal, mais je trouve pas que c'est génial. De toute façon, c'est toujours un problème, moi, je trouve, c'est quand même rarissime à ma connaissance, peut-être que vous allez me trouver des exemples, mais de chanteurs ou de musiciens de couple qui auraient fait des trucs géniaux dans les années 50, 60, ou même 70. Qui ensuite aura une sorte de descente aux enfers ou simplement d'absence ou de silence, puis qui 30 ans après ou 20 ans après reviennent à cause de fans, qui les produisent, c'est jamais, je trouve, ça te renverse pas quoi. Je veux dire, ça peut être émouvant, ça peut être pas mal, mais c'est pas renversant quoi. Ouais, mais ils le font Norton avec beaucoup d'artistes, Fortune Records, ouais, tout à fait. Oui. Parce que. Ils l'ont fait avec Andrew Williams aussi,
oui,
que j'adore, J.L. Beat, je l'ai aussi, l'original, j'adore. C'est Fortune Records aussi, hein, J.L. Beat.
Oui, oui.
Ça, c'est l'écran, parce qu'il avait, je crois, découvert du sens. Donc voilà, Fortune Records. Donc Nathaniel Meyer, A Place I Know.
I'm casserole, comme souvent dans l'ordre de solo, on a l'impression que ça commence à être un peu n'importe quoi, que ça devient un peu fou, que les gens font des trucs très autonomes, que c'est pas hyper accordé. Mais bon, aussi j'aime beaucoup.